I'm just riding, side. Let's take a little trip. CMG and K, and we fist to make a grip. Coming straight from out the O, so you know that we got the funky tractors fat. But anyway, it's my turn, so let me introduce. Special one, first up from the gangster crew, known as CCD, with the title and the rep, it's quite apparent. Serving funky shit to keep your motherfuckers staring. Pump it up, max shit for your ears. Kicking loud and clear, making hoes disappear. Hitting donuts in a tray sideways. To the next, like triple gold things, and my shit's tight. Five deep, mobbing through in the town. Deuce tone gangster flake with the top down. Damn, the shit's hitting hard in the truck. Got me three wheels switching on them bitches on the next block. Headed straight to the top. And as long as my skills pay the bills, I'ma never stop kicking that shit you love. Pass a dank and a drink for the bitch to buzz. It's a ghetto thing, so I bring the ghetto swing. Hooking niggas like the cane when I do my thing. Five real G's mobbing on a mission. Check it, it's the funky expedition that we call a little something to ride to.
Conscious Daughter, Something to Ride to Funky Expedition. Journée du 8 mars, donc vous aurez compris que ce sera très féminin ce soir. On poursuit avec Janet Kay, Silly Games. Lovers Rock.
Thank you. We are taking the years if you don't. are taking the A's if you play A's. We are taking the A's if you don't.
The coup, taking these. Et on salue DJ Pam de Funk Stress. Qu'elle repose en paix. On poursuit avec Girl School. Come on, let's go. Girls School, come on, let's go. Un de mes groupes préférés dans la New Wave of British Heavy Metal. Et on passe aux Cramps avec The Mad Daddy et on salue Poison Ivy.
Let's go, baby. Let's go, baby. I am. shades, purple shoes. I got a parachute to land on you. I am a madman.
On salue notre femme, la boss de Marianne de Norton Records, qui a joué dans les Crumbs au tout début.
Est une artiste iconoclaste à nul autre pareil, pas une star mais plutôt une déesse à l'image de celle qu'elle emprunte, dont elle emprunte le nom. Sappho est un poème à elle toute seule. Elle chante, elle écrit, elle crée dans plusieurs langues. C'est produite dans le monde entier depuis plusieurs décennies et ce soir c'est notre chance de la voir sur le plateau. Bienvenue Sappho sur le plateau du Journal de l'Afrique de France 24.
Merci à vous, Fatimata. La brillante, Fatimata.
Oh, ça me fait très plaisir. Alors, on dit beaucoup de choses de vous, icône punk. Vous êtes née au Maroc, vous avez vécu dans le monde entier, chanteuse du monde. C'est comme ça que vous aimez vous représenter. Je me demandais ce que représentait le Maroc en particulier, mais plus largement l'Afrique dans votre imaginaire artistique.
Je pense que je ne serais pas du tout l'artiste que je suis sans avoir eu cette enfance, cette adolescence au Maroc. Le Maroc, pour moi, c'est un lieu, c'est un lieu avec une nature immense, avec à perte de vue, avec cet horizon visible, avec les couleurs chaudes, rouges, avec les musiques qu'on entendait à Place Jamal Fna. J'habitais en face de la Place Jamal Fna, j'entendais les percussions des Gnawa, toutes sortes de villages, de la musique anglo-saxonne. Toutes les musiques, c'est pour ça que... Et Oum Kalsoum passait dans les rues. C'est pour ça que pour moi, faire de la musique et oublier une partie d'un territoire de ma mémoire, c'était m'amputer. Le seul moyen d'être juste, c'était de rassembler tous ces territoires de la mémoire dans la musique.
Dans la musique, et vous le faites divinement bien, évidemment, dans toutes les langues, en français, en espagnol, en arabe, en hébreu.
En anglais.
En anglais aussi, évidemment. Je voudrais qu'on entende un extrait, donc c'est maintenant, qui vient... De ce clip-là, de cet album,
oui.
Justement, Jam, voilà. Jalousie, Amour et Mort. Je voudrais qu'on entende un bout et on en parle juste après.
D'accord.
Maintenant que la mort rôde et qu'il porte un joli nom, le mal subtil qui le guette du nom de myélome indolent. Maintenant que l'indolente rôde, rôde.
On entend cette voix absolument envoûtante, toute particulière. Cet album, justement, Jam, Ouais. Comment vous dites, Jam?
Oui, Jam.
Jalousie, amour et mort. Ça faut, c'est pas très gay, non, quand même. C'est pas alors que vous êtes hyper gay.
Mais il y a des chansons gays quand même dans l'album. Il y en a.
Bien sûr.
Mais c'est aussi autour du travail. On avait fait un travail sur Othello.
Oui.
Et The Moor of Venice, le mort. On restaurait son imaginaire mort, M-A-U-R-E.
Ouais.
Et c'est pourquoi il y avait le thème de la jalousie, le thème de la mort aussi, etc.
Ouais.
Et là, en plus, bon, on parle de soi dans les chansons. Et
bien sûr.
Là, mon amoureux était menacé de mort.
Oui,
et c'est pourquoi j'ai écrit cette chanson qui dit « Maintenant que la mort rôde et que le temps se finit, laissons les lunes nous rendre doux, que chaque jour soit un bijou. Laissons la jalousie s'effondre comme une robe au sol. »
Oui. Alors, vous, évidemment, votre plume est absolument exceptionnelle et elle se voit justement dans votre travail. Pour vous, c'est indissociable ce travail-là d'ailleurs, entre la musique et l'écriture. Je rappelle aussi qu'évidemment, vous êtes écrivain, poétesse, et donc je rappelle la Journal de bord aujourd'hui, le dernier
livre
publié chez Bruno Doucet. Donc expliquez-nous ce rapport entre les deux, justement.
Alors vraiment, ce sont des je crois que mon projet était d'écrire. Au départ. Et puis ensuite, par le hasard de la vie, j'avais écrit des petits poèmes quand j'étais enfant à Radio Maroc et on m'avait dit viens. Et j'avais donc, mais j'avais pas osé dire mes poèmes, mais j'avais dit la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de la fontaine. Et on m'a invité, on m'a engagée comme petite comédienne. Donc j'ai fait du théâtre.
Ouais.
Et puis, mais mon vrai désir était d'écrire. Et finalement, je crois qu'écrire. Il y a plusieurs écritures, vraiment, très distinctes. L'écriture de la chanson n'est pas du tout la même que l'écriture de la poésie, ni des romans. Et je vais d'ailleurs faire un audiodisque avec mes textes de chansons lus. Et on entend justement que c'est rythmique, que c'est fait pour être cadencé, alors que bon, la poésie contemporaine, c'est comme la musique contemporaine, c'est
oui, c'est plus libre.
Iconoclaste.
Oh, absolument. Et donc, parlez-nous rapidement de la scène. Donc, vous montez sur scène le 17 mars au New Morning. Qu'est-ce qu'on pourra voir justement ce soir-là?
Alors, on verra Jam, mais aussi, en hommage à Manouchian,
oui, absolument.
On va chanter cette chanson magique, énorme, qui est l'affiche rouge.
Oui.
J'avais été invité à Ivry pour ça, à l'occasion de sa panthéonisation. Et pour moi, ça a un sens très fort, parce que c'est cet Arménien, ce Juif, cet étranger, mort pour la France. Et pour moi, c'était extrêmement important et fort comme message. Ce communiste, il avait toutes les tares, bref. Ouais. Donc, il y avait... ça avait du sens vraiment de le faire et voilà, donc je vais quand même la faire aussi, cette chanson.
Oui, que vous aviez déjà reprise et qui était sur un album à Léo Ferré d'ailleurs.
Absolument, j'avais pas du tout attendu.
Oui, bien sûr.
Cette panthéonisation
pour déjà célébrer ces mots absolument fantastiques. Alors évidemment, on recommande à nos spectateurs qui sont à Paris, qui ont l'occasion le 17 mars au New Morning, précipitez-vous parce que vous ne sortirez pas indemne. Justement, de votre rencontre avec la déesse Sappho. Ratez pas.
Absolument. Sappho était une poétesse.
C'était une poétesse, mais c'était la déesse de la poésie, vrai ou faux? Alors, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller au New Morning, c'est à Paris. Merci infiniment. Donc c'est ainsi qu'on referme cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Alors peut-être, je ne sais pas, j'ai dit au hasard, de Marrakech à New York en passant par Paris pour inclure tout le monde et tous vos chemins. Merci beaucoup. Et restez avec nous car l'actualité continue sur France.
Donc ça date de 2024. Donc Sappho qui jouait au New Morning le 17 mars 2024. Et on va nous écouter un morceau de 84, donc 40 ans plus tôt, Western. Alors c'est sur un album qui s'appelle Préférence, à moins que ce soit une compilation. Et c'est sorti chez EMI. Western, Sappho.
Tu me fais mentir à moi-même. sa danse sec au plafond, lustre en carton, puis la valse des ombres autour de la maison, puis le western. Les phares des bagnoles balaient dans la nuit, les traits de la pluie qui est mon carrousel, quel western. Tu me fais mentir à moi-même. Enfin je l'ai viré, mais qu'est-ce que ça change? Je suis abandonnée, quel western. Tu me fais mentir à moi-même. 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 Tu me fais mentir.
A longtemps été le coiffeur officiel du groupe Onyx, Cher. Cher, comment ça va?
Très bien.
Et puis une invitée qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même, car voici donc venu le moment où ceux qui dénigrent nos choix d'invités vont enfin pouvoir se calmer. Oui, nous n'avions jusqu'alors jamais invité de femme dans Get Busy, en tout cas pas dans notre version clic, mais faites vos propres recherches, tout est accessible en deux clics sur Internet. Le New York des années 80, combien de fois l'as-tu fantasmé devant ton écran? Combien de fois l'as-tu parcouru à toute blinde pour rejoindre Coney Island et échapper au Baseball Furies? Combien de fois avec ton binôme Da Silva, tu as cavalé dans ses rues pour tenter de serrer Wolfgar? Combien de fois après avoir vu Wild Style, tu as rêvé de descendre avec Lee pour en cartonner ses métros? Mais tu étais en France. Tu regardais Silas, l'homme qui tombe à pic et pose café. Dans un autre genre, c'était bien aussi, mais bon. Notre invitée, elle, elle était sur place et vivait live and direct l'émergence d'un tsunami que personne ne soupçonnait encore. Quand aujourd'hui tu feuillettes tes albums photos de cette époque, tu vois tonton, mamie et aussi ce cousin que tu peux désormais plus blairer. Dans les siens, notre invitée voit DST, Futura, Fab Five Freddy, les Beastie Boys, Russell Simmons ou Africa Bambaataa. Ce cliché où tu as fièrement immortalisé la construction du gargantua de Mirapolis à El Sergi, elle y répond par des caisses de négatifs sur la naissance du hip-hop à New York. Elle a chillé en studio dans les rues ou sur les toits avec Public Enemy, NWA ou EPMD, présenté Yo MTV Rap avant l'apparition des cravates Bugs Bunny, des block parties au studio télé de HIPHOP. En plus d'être une Zulu Queen certifiée, elle est surtout avec Laurence Twitou et Bernard Zécry la troisième pièce de la French Connection du hip-hop des débuts des années 80, beaucoup plus fly que la plus fly de tes copines, Sophie Bramley et qui est Africa Loukoum et l'invité de Get Busy.
Oui, tout ça, d'accord, merci.
Juste avant de poser la parole à Charles, j'ai une petite question. Est-ce que tu as encore ta nameplate Loukoum?
Oui. Bien sûr.
T'aurais pu venir avec.
J'aurais pu, j'ai pas pensé, je suis désolée.
Okay. Bon, on va recommencer par tout le début. Comment tu te retrouves à New York, à quelle époque? Et quelle est ta rencontre avec cette scène hip-hop qui est naissante?
Alors, je suis une enfant gâtée. Donc, j'ai terminé mes études à 20 ans. 10 minutes après, j'étais photographe à Paris Match, ou à peu près. Et je photographiais de jeunes actrices, ou je sais pas, c'était une rubrique de filles montantes. Et au bout d'un an, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, j'ai fait le tour de la question, je pars à New York. Et je suis partie officiellement, enfin en tout cas pour, d'un point de vue de papier, comme correspondante de Paris Match et d'une agence de presse. Et je faisais que des trucs méga chiants, sans intérêt. L'anniversaire de la mort de Marilyn Monroe, enfin des trucs bons. Mais je m'amusais bien. Parce que je connaissais déjà bien la ville, j'avais plein de copains, machin. Et un jour, j'ai été à une fête dans une boîte de nuit sur Union Square. Et là, il y avait, je pense, le Rocksteady Crew, je ne suis pas complètement sûre. Mais en tout cas, ils ont fait une performance. Et alors que j'avais entendu plein de titres de rap, et que j'avais, enfin, ni tilté, ni pas tilté. Mais là, de voir ce qu'il faisait, ça m'a complètement éberluée. Et du coup, je suis rentrée par cette porte-là, même si ce n'est pas vraiment la danse que j'ai suivie après. En tout cas, c'est ça qui m'a fait me dire, c'est quoi ce bordel? Ouais, ça, et après, ça m'a pris comme Jeanne d'Arc. Hein. Je, vraiment, tout les est tombé. Et je voulais que être avec eux, m'imprégner de ce truc-là, sans aucune idée de ce que j'allais en faire, parce que ça n'intéressait personne. Mais voilà.
Tu t'en es mieux sorti que Jeanne d'Arc, quand même, au final.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Tu dis que c'était en quelle année, ça, pardon?
Je suis partie en 81.
Ok.
Ouais. Parce que tu dis que tu entendais déjà du rap, mais sans plus. Il n'y avait pas le côté nouveau du truc que tu pouvais trouver excitant,
c'est-à-dire, en
attirant.
Fait, les trucs que j'avais entendus à la radio là-bas, c'était The Message et Sugar Hill Gang. Enfin, ouais, comme j'ai toujours aimé la musique black, j'ai tilté, mais pas plus que ça. Je ne me suis pas dit, c'est quoi ce truc qu'ils sont en train de faire? C'est la révolution. Ça ne m'a pas fait le même effet que la danse. Ou la danse, je ne savais même pas que le corps humain pouvait faire ça. Donc, c'était plus spectaculaire.
Tu découvres donc le Rocksteady Crew dans cette soirée. À quel moment tu commences vraiment à sympathiser avec eux, avoir des connexions et, comment ça se fait tout ça en fait?
Bah, alors en fait, on est un très petit groupe, donc ça va très vite. J'avais une copine qui avait une histoire avec Fafa et Freddy, j'étais copine avec Bernard Zécry, tout ça était en train de monter, de s'articuler de tous les côtés, donc c'est allé très vite parce que en fait, il faut imaginer que personne ne s'intéresse à un groupe de gens. À partir du moment où il y en a deux, trois qui disent ah ben si, ce que tu fais, moi ça m'intéresse. Tac, tac, tout le monde ouvre les portes, tchic, tchac, tchouc, et très vite, c'était machin qui me disait va voir truc, truc qui me disait va voir bidule, et peut-être, et puis voilà. Et après, il y avait la grande cérémonie religieuse, j'ai envie de dire, du vendredi soir au Roxy, où là, toute la scène. Alors, le monde était scindé en deux. Hein. Il y avait d'un côté tout ce qui était Zoulou et Bambata, et de l'autre, la scène autour du Disco Fever et Flash. Plus compliqué d'accès pour les gens qui habitent à Manhattan. Donc, moi, ma religion, elle était au Roxy. Et là, il y avait tout le monde. Donc.
Justement, dans tes photos, et très, très, très vite, les trucs qu'on voyait, tu avais beaucoup de photos dans le Bronx. Et donc, c'est un endroit où même la plupart des gens de Manhattan ne mettaient pas les pieds, tu vois, ou même des gens d'autres quartiers. C'était, parce que le Bronx, vraiment, de l'époque, c'était un quartier dévasté.
Ouais.
C'était même le symbole de la misère en Amérique, ouais. le Bronx. Et toi, est-ce que tu pouvais t'y balader si facilement que ça, ou tu avais quand même besoin d'être un peu accompagné, ou comment ça se passait?
Bah, j'aurais jamais été seule avec mes appareils photo. J'aurais pas dépassé le coin de la rue. Mais par contre, avec eux, j'étais multi-archi-protégée, il n'allait rien m'arriver du tout. Je ne me suis jamais ni posé la question, ni inquiétée, ni quoi, mais parce que tout simplement, je savais que seule, je n'irais pas très loin, mais que eux étaient archi-protecteurs avec moi, mais archi-protecteurs.
Tu le disais dans une interview d'ailleurs que même en France, ce monde social-là, un petit peu défavorisé, tu ne l'avais pas du tout côtoyé, en fait. Il a fallu que tu arrives aux États-Unis pour voir cette
misère. Mais pas du tout. Moi, je suis une petite bourgeoise, jamais sortie de Paris avant d'arriver à New York. J'avais jamais mis les pieds en banlieue. Je ne savais pas ce que c'était. J'imagine que les parents veulent toujours protéger leurs enfants, que j'étais une fille, j'en sais rien, je ne sais pas quelle connerie. Mais en tout cas, quand je suis arrivée dans le Bronx, je ne me suis pas dit « Waouh, je suis en banlieue ». Enfin, ça n'avait aucun sens. C'était la continuité de ce que j'étais en train de faire. Je n'étais pas en train de me dire que j'avais fait des prouesses ou je ne sais pas quoi. Non, j'étais allée voir mes copains, point barre. Donc,
Parce qu'il y a pu avoir souvent ce côté-là, c'est-à-dire que tout ce qui est un peu misère sociale en France, tu la fuis. Et il y aurait un petit côté un petit peu exotique à aller la voir à New York, c'est pas pareil.
C'est vraiment dégoûtant.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais. Je me suis jamais vue comme ça. Toute petite, j'ai trouvé très difficile la misère sociale les rares fois où je l'ai rencontrée en voyageant. Je peux pas la mettre en scène. C'est pas un truc qui ni m'intéresse, ni enfin ça me dégoûte de faire ça. Non.
Tu expliques et c'est ce que Bernard Zécry expliquait aussi, c'est qu'en fait, pour les grands théoriciens d'un grand complot, d'une mainmise de je ne sais qui sur je ne sais quoi, mais en fait tout ça est très spontané, tout ça va très vite.
Ouais.
Comme nous ici, en fait, en vérité, c'est pareil. À partir de, on va dire, l'après Sydney. Tout s'enchaîne très vite entre Dynastie, le terrain, le globo, et tout se forme comme ça à une vitesse qu'en fait, c'est dans le temps, c'est 2-3 ans, quoi, et tout va vite comme ouais, ça ouais. aussi. Et à quel moment donc tu découvres cette scène-là, et au moment où tu commences vraiment à les côtoyer, être emporté par ça, et faire partie même presque?
Le truc bizarre, c'est que ça a été beaucoup plus fort en France à partir de Sydney que ça ne l'était aux États-Unis. Ça restait un truc underground. Le truc ouvert, c'était que le monde des artistes à Soho était perméable à ça. Que, je sais pas, Freddy m'a raconté par exemple que beaucoup de portes se sont ouvertes grâce à Tokinez parce que ils ont parlé, y compris à Jean-François Bizot, de ce qui était en train de se passer à New York, qui du coup a envoyé Elisabeth D, puis Bernard, puis plein d'autres gens, etc. Donc ici, il y a une curiosité culturelle et puis à l'époque en tout cas il n'y avait pas de barrage. Enfin c'était l'époque des SOS racisme quoi, donc tout le monde était très ouvert à tout. Alors qu'à New York la ségrégation c'était un truc mais vraiment atroce. On avait beau dire que ça n'existait pas, si je voulais prendre un taxi avec DST, il fallait que je lui demande de. Enfin c'était lui d'ailleurs, moi jamais j'y aurais pensé, qui m'a dit non il faut que je me cache au coin de la rue parce qu'un chauffeur de taxi noir ne s'arrêtait pas pour prendre un noir en jogging et basket. Alors, arrivant de France, c'est juste absurde, mais le type qui est au volant de la voiture est de la même couleur de peau que toi. C'est quoi son problème? Eh bien, les baskets et les joggings, à l'époque, c'était un truc de Kaira et donc Noé. Donc, c'était très curieux venant de France, ce truc-là. Moi, j'avais beaucoup de mal à m'habituer à ça, mais...
Alors, si je continue comme ça, on est là pour 5 heures. Donc, interview de Sophie Bramley chez Get Busy, vous aurez compris. Sophie Bramley, donc, qui est l'une des pionnières du hip-hop en France, qui va même présenter, alors là, au niveau, là, c'est même intéressant, qui va même présenter UMTV Europe au départ, qui était donc une émission européenne et qui se verra shipper le morceau un peu plus tard. Puisque MTV va recentrer tout ça et va décider que la version américaine qui va être créée juste après va annihiler le reste. Sophie Bramley, et là on va écouter Nina Hagen, bah, ça tombe bien puisque si vous vous souvenez du monde de demain et si vous avez suivi l'histoire de NTM, Nina Hagen est un petit facilitateur au niveau du premier passage télé du Suprême. Écoutons donc Dread Love de Nina Hagen.
Du Rennen! Non-sex monk rock.
Allez, une micro-session synth-pop à l'instant, donc c'était Yazoo, Don't Go, et on poursuit avec Don't You Want Me de Human League.
I picked you out, I should
Valérie Lagrange, Faux Plume l'affaire. Et on passe aux Slits avec Boring Life.
So, thank you for having me.
Thank you.
I'm such a fan of the show.
Thank you. You watch the show?
I do. And so does my dad. And he wanted me to tell you, you are doing such a beautiful job. And he loves watching the show.
Thanks, Dad. It's me, Jennifer. Yeah. Oh, my goodness. And we have been watching you for years. I have always been a fan. You started in 1996?
I started before that, but that's when y'all started seeing.
Okay.
Yeah.
Break it down for us. How did you get into the industry?
So I had a very traditional come up in the business. I went to drama school for 3 years and did like almost 30 plays and came out and just started auditioning. My first job was a guest spot playing LL's date on In the House.
Really?
You remember that?
Yes, I remember that show. You're going to make me go look it up and find it.
It was like a one scene part, but I was very excited. And then I got another guest spot on Family Matters.
That was another good show.
Yes.
I used to watch that one.
Playing Urkel's mean date, who was just pretending that she liked him, but she didn't really like him. Anyway, it was a tour de force part, but.
Love that for you. And your parents worked in the entertainment industry.
Yes.
Did they like encourage you to pursue your career or?
Actually, it was the opposite.
Really?
When I told my dad that I wanted to become an actor, he basically almost cried and kind of begged me to not do it. Because, you know, he was a black director. He is a black director in this business and came up and it wasn't easy for him. And he was like, look, it doesn't matter how talented you are. Yeah. There are so few roles, especially when I was coming up.
Right.
You know? And he just didn't want that for me, but he's now my biggest fan.
Of course.
I didn't live.
And you studied English in college, so did you ever consider anything outside of acting?
Yeah, I did, actually. Kind of being a rebel, before I caught the acting bug, I thought I wanted to be a lawyer.
I can see that for you.
Yeah, I was kind of, you know, I was a little nerd in school. But I did an internship at a law firm, and that was over in about a week. I was like, I cannot do this.
Okay, well, what was it like filming Best Man and the sequel?
Wow, well. Yes, yes. It was amazing. You know, it was such a different time. We were all so young. Yeah. It was in New York City. We were all, you know, it didn't feel like work. We were like family back then. And it's been over 20 years, which is crazy. And we all are still such good friends.
And y'all all look so good.
Who knew that we were going to last this long? We said the next one will be Best Man, Old Folks Home.
Do you think it'll get that far?
I think we put the bow on the gift.
Well, thank you for giving us the classic, because we love your work, that film.
Thank you.
And another.
Alors, j'ai ouvert le micro, j'aurais pas dû. Alors, c'est une interview de Sana Lathan dans l'émission de Jennifer Hudson. Ça date de 2024. Donc, Sana Lathan, qui est une actrice qu'on voit notamment dans Best Man. Voilà, donc. Alors, on la voit. Je sais pas si je peux dire qu'on la voit moins. Enfin, moi, en tout cas, j'en entends moins parler maintenant, mais voilà. Je pense qu'elle est toujours dans le coin, on va dire ça comme ça. Nous écoutons maintenant Marianne Faithfull avec le morceau Oh, Look Around You. Marianne Faithfull qui nous a quittés il y a quelques semaines, je crois.
Where the laughing tree stood, and the
C'était Shaking Street. Alors, des nouvelles de Sana Lathan. Alors, elle a réalisé un film qui s'appelle On the Come Up. Et elle apparaît donc dans différentes séries en 2024 et notamment et aussi dans un film qui s'appelle The Supremes at Earl's All You Can Eat. Alors ça parle de quoi les Supremes ? Ça parle pas du tout du groupe, mais ça parle d'un groupe d'amis en fait qui se surnomme les Supremes. Donc les trois meilleurs amis qui ont ces trois meilleures amies, femmes, à qui il arrive des choses. Donc The Supremes at Earl's All You Can Eat, ça s'est sorti en 2024. C'est un film réalisé par Tina Mabry. Voilà. On revient, nous, c'est le moment des news maintenant. Vous voyez, on a anticipé. Alors, on a appris la disparition de Roy Ayers. Il nous a quittés le 4 mars 2025. C'est notamment le monsieur qui a fait la BO de Kofi, hein, si on devait retenir très peu de trucs sur lui. Nouvelle signature chez Memento Mori, donc le groupe de death metal Invictus, affaire à suivre. Sinon, la musicienne et productrice H.E.R., de son vrai nom Gabrielle Wilson, et H.E.R. ça veut dire « Having Everything Revealed ». Elle a réalisé un documentaire sur Curtis Mayfield intitulé « The Makings of Curtis Mayfield » et ce documentaire sera montré, alors je ne sais pas si c'est une avant-première, mais il sera montré au festival SXSW d'Austin en mars 2025, donc ce mois-ci. Encore un monument qui s'en va, donc c'est Brian James, membre fondateur des Damned et aussi des Land of the New Church. Il nous a quitté le 6 mars 2025, il avait 70 ans. Sinon, A Dying Victim Production va sortir le 23 mai 2025. Alors d'un côté, Sexorcisme avec un Y, le premier album du groupe Death Thrash polonais Sex Mag. Et Inferno Crematorio, le troisième album du groupe speed metal italien Hell Crush. Artus Fume va sortir deux Polizio Teschi de plus, donc Un Flic Voix Rouge et Marc la Gâchette de Stelvio Massi avec Franco Gaspari. Ça sort en avril 2025. Je crois que j'avais vu Marc la Gâchette sur Netflix ou Amazon. C'est pas le poliziotesco de base, hein. C'est pas du tout les Maurizio Merlin, c'est beaucoup, il y a un côté humoristique, on va dire ça comme ça. Et sinon, le 22 mars 2025, UVPR va sortir en vinyle, donc les deux albums de Camera Silence, on l'a déjà dit, plus le 45 tours Une Nuit qui était sorti en 87. Voilà pour l'essentiel des news. Sinon, vous pouvez regarder sur Horns Up, il y a une interview du groupe black metal russe Horna, qui vaut le déplacement. Nous écoutons maintenant Vice Squad avec Stand Strong, Stand Proud, s'il vous plaît.
Oh!
Alors, je précise d'entrée que moi, ce que je préfère le Vice Squad des débuts des années 80 au Vice Squad avec seulement Becky Bondage comme membre originel. Voilà, c'est dit. Et on poursuit avec les Pretenders et le morceau Precious.
Across the street, cause I'm
precious.
Moving through the Cleveland heat, how precious. We're taking lines and all the kicks are so precious. But you know how to shit in bricks, cause I'm
precious.
Make me wanna. Make me wanna. Make me make it. And Euclid Avenue was real precious. Hotel still ain't coming into view. Oh, how precious. It's a pity that she bruised my hip, cause I'm precious. You shouldn't let your manners slip, you're too precious. Admit me, Bonner. Admit me, Bonner. Admit me, Megan.
You're so
precious. Now Howard the Duck and Mr. Strespo stayed
precious.
Trapped in a world that they never made. But not me, baby, I'm too precious to have a fuck off. You made me wanna. You made me wanna. You made me make it.
My name's Carter. I know where you want to, and you're gonna get it. This is the end of your rotten life, you dope pusher!
See you crawl over here, you black trash.
You want me to crawl?
What are you doing? Put that down.
You want to spit on me and make me crawl?
just tell me. Did this man send you to kill me?
No. He didn't know nothing.
Take her out and kill her.
I think of all the fun I could have had with a good-looking stud like you.
You really mean that?
All your friends are dead. Well, I killed them all.
Coffee avec Pam Grier, pour moi, un des meilleurs films de Blaxploitation et un des meilleurs films de Pam Grier de toute façon. On poursuit avec les Modettes et White Mice.
Thank you.
said.
I'll never know.
C'était les Shangri-Las avec Leader of the Pack et on s'arrête là pour cet épisode.